Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue aujourd'hui dans l'émission Philosophie au présent, et j'ai le plaisir d'avoir mes petits camarades autour de moi. Stéphanie Rontchevski, honneur aux femmes.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Stéphanie, bienvenue. Et puis Michele Saporiti.
Ah, bonjour voilà. Nathalie, et bonjour Stéphanie.
Voilà, bonjour Michele.
Alors les trois.
On est tous les trois aujourd'hui, voilà. Et on a l'immense plaisir de recevoir Isabelle Alfondari. Voilà, que nos auditeurs... Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie.
Que nos auditeurs connaissent parce que, elle, voilà, c'est une des femmes qui est... C'est la femme, ancienne présidente du Collège international de philosophie, qui est à l'origine de ce partenariat entre le Collège international de philosophie et Aligre FM. Voilà un partenariat qui date déjà depuis 2018. Voilà, et c'est une émission qui dure, hein, souvent mensuelle, parfois bimensuelle, ça dépend de l'actualité culturelle. Bon, alors là, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Alfondari. Voilà, je donne juste le titre de l'émission pour te laisser la parole, Stéphanie. Il s'agit, voilà, de faire parler Isabelle autour de son livre magnifique qui s'appelle « Le scandale de la séduction d'Œdipe à MeToo ». Voilà, et je te laisse la parole pour présenter Isabelle Alfondari à nos auditeurs et auditrices.
Alors Isabelle, tu as de nombreuses fonctions, mais qui je pense se complètent bien. Hein. Tu es professeure de littérature américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, tu es philosophe, psychanalyste. Tu as été, comme Nathalie l'a dit, présidente du Collège international de philosophie de 2016 à 2019. Et effectivement, c'est très important pour nous puisque notre émission se veut la voix du Collège. Alors, tu es l'autrice, auteur, entre autres, de nombreux livres comme Derrida, Lacan, l'écriture entre psychanalyse et déconstruction, paru en 2016 chez Hermann, Science et fiction chez Freud, quelle épistémologie pour la psychanalyse, paru chez Ita en 2021, et Le scandale de la séduction d'Œdipe à MeToo, paru chez PUF en 2024, qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Voilà, alors déjà, bon, je suis allée, j'ai beaucoup résumé, est-ce que ça te convient cette présentation? Est-ce que j'ai...
Oui, c'est parfait.
C'est parfait. Bon, alors, pour parler de ton livre, hein, Le scandale de la séduction d'Œdipe à MeToo, voilà, tu pars du constat que face au raz-de-marée médiatique des révélations d'agressions sexuelles par MeToo, la psychanalyse, pour qui c'est normalement la vocation de prendre en charge la souffrance, les problèmes notamment d'origine sexuelle, la psychanalyse donc s'illustre par son silence sur la scène du grand public. Et dans ton livre, tu parles aussi, il me semble, d'un second silence. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Freud a moins bonne presse qu'il y a une vingtaine d'années, et moi je l'entends en fait un peu avec mes élèves quand je fais le cours sur l'inconscient en lycée. Et pourtant, t'expliques bien que Freud a été un des premiers à donner la parole aux femmes, à leur accorder du crédit, à comprendre ce qu'on appelait à l'époque, et toujours, l'hystérie, et que c'était en réalité le résultat d'un traumatisme sexuel, idée dont il s'est éloigné, mais qui a été réhabilité, si j'ai bien compris, par son disciple dissident Ferenczi, et aussi par La Planche. Alors, pourquoi est-ce que leurs propos ne sont pas plus connus, reconnus, alors qu'en la matière, ils ont dénoncé certains phénomènes d'abus sexuels avant tout le monde? Et comment expliquer alors du coup ces deux silences, celui pour faire vite de la psychanalyse face à MeToo, et puis inversement, pourquoi les défenseurs des victimes ne s'emparent pas de tous ces propos qui ont déjà été tenus par la psychanalyse? Et puis ces deux silences ont-ils un lien?
Alors, de fait, il y a comme un paradoxe à ce que la psychanalyse, qui d'une certaine manière est la discipline qui a fait venir sur le devant de la scène, et avec bien des difficultés parce que personne ne voulait l'entendre, le caractère, disons, traumatique du sexuel. C'est quand même la découverte de la psychanalyse freudienne. On peut dire que toute la psychanalyse freudienne, y compris au-delà du renoncement à la théorie de la séduction dont on va sans doute reparler, en fait, reconnaît le caractère traumatique du sexuel d'une manière générale, et en particulier dans les abus sexuels. Mais le sexuel, pour Freud, sa découverte, c'est qu'il est à la fois une tendance absolument vitale, il implique une tendance absolument vitale au plaisir, à la recherche du plaisir, mais cette effraction du sexuel dans le corps de l'enfant, elle est aussi potentiellement toujours traumatique. Donc ça, c'est quand même la découverte freudienne. Et avec cela, Freud ne va pas cesser de travailler. En revanche, ce qui fait un peu paradoxe, de fait, c'est qu'au tout début de la psychanalyse, peut-être même avant ce qu'on appelle psychanalyse, Freud écoute un certain nombre de patientes et découvre que dans 7 cas sur 13, les femmes qui viennent le trouver, qu'on appelait à l'époque hystérique, je ne pense pas qu'on garderait ce qualificatif d'accord. aujourd'hui pour plusieurs raisons, y compris dans la psychiatrie contemporaine, mais peu importe, les femmes qui venaient le trouver, elles souffraient de maux un peu inexplicables, elles souffraient de paralysie, elles souffraient d'incapacité de parler, de se mouvoir, toute forme de paralysie, d'incapacité motrice qui était sans cause organique. Et c'est avec ce genre de femmes, très tôt, dès les années 1890-1885, que Freud va se mettre en chemin, disons, de sa découverte. Et dans les 7 premiers cas sur les 13 qu'il écoute, ces femmes viennent le trouver pour toutes sortes de maux assez inexplicables. Et au cours des cures qu'il conduit avec elles, il s'aperçoit qu'elles se remémorent des événements d'abus sexuels. Et c'est à partir de là que Freud va fonder sa première théorie qui s'appelle la théorie de la séduction. On comprend bien que séduction, c'est un euphémisme. Oui. On aurait pu appeler cette théorie la théorie du viol. Mais pour des raisons qui tiennent à l'étiquette, aux usages et à la grande pression que rencontre Freud à soutenir le sexuel sur la scène de la psychiatrie de l'époque, on ne peut pas appeler ça du nom de viol. Oui. Et en fait, donc... Freud découvre, juste pour expliquer le paradoxe avec ce qui se passe aujourd'hui, met au point cette première théorie de la séduction avec laquelle il va travailler quelques années. Et puis, en 1897, de manière assez brutale, il va écrire une lettre tout à fait capitale à son correspondant et ami, meilleur ami de l'époque, Fliss, pour dire qu'il renonce à cette théorie. Et la raison qu'il avance pour renoncer à cette théorie, c'est qu'il n'est pas possible, vu le nombre de femmes qui souffrent de troubles dits hystériques, qu'il y ait un nombre équivalent de pères ou de maris ou de frères qui se soient rendus coupables d'actes d'effraction sexuelle, d'abus sexuels aussi graves. C'est donc pour cette raison que Freud découvre à ce moment-là ce qu'il appelle l'autre scène, la scène de l'inconscient, qui implique que ces femmes qui souffrent non seulement d'un certain nombre de maux inexplicables, mais aussi d'un certain nombre de réminiscences de scènes sexuelles, ont pu vivre un certain nombre d'expériences, mais qui n'étaient pas forcément matériellement abusives, et qu'elles, ces expériences se sont remaniées sur une autre scène que Freud appelle l'inconscient, et produisent ces effets de réminiscences un peu étranges. Voilà. Alors, le paradoxe qui a donné lieu à ce livre, c'est que lorsque MeToo s'est déclenché, notamment en France, je m'attendais à ce que les psychanalystes, alors je ne sais pas si c'est la psychanalyse, mais des psychanalystes, d'abord soient sollicités, ce qui a été très peu le cas, ou s'auto-sollicitent, si vous voulez, c'est-à-dire viennent parler aux médias ou simplement à des femmes pour dire quelque chose, disons, de ce qu'ils entendaient, de ce qu'elles entendaient, ce sont aussi beaucoup de femmes qui sont analystes, et qui faisaient écho au tout premier temps de la psychanalyse, à savoir que la question de l'abus sexuel, c'est absolument capital dans, au fond, on pourrait dire dans l'invention, dans la découverte de l'inconscient pour Freud. Et il y avait beaucoup d'échos. Il y avait notamment un écho, moi, qui me frappait beaucoup. C'est que ces femmes de MeToo répétaient d'une certaine manière, mais sur un autre terrain, le geste qui avait été celui des femmes qui se sont présentées dans les cures avec Freud, en demandant à leur interlocuteur, c'est-à-dire à Freud, et pour les femmes dans le mouvement MeToo, un certain nombre d'interlocuteurs médiatiques ou dans la communauté, disons, sociale, de se taire et de les laisser parler. Il faut savoir que dans une cure très célèbre, Freud a été interpellé par l'une de ses patientes qui lui a demandé de cesser de parler. Alors, ce n'est pas Anna O. Anna O, c'était la patiente de Breuer, donc je crois que c'est Elisabeth, mais enfin, peu importe, lui a demandé de se taire et de la laisser parler. Et c'est comme ça qu'est née la technique de l'association dite libre. Freud a donc fait le pari qu'il fallait non seulement faire crédit aux femmes de ce qu'elles apportaient, mais aussi qu'il était absolument capital de les laisser parler. MeToo demande, bien sûr, sur une toute autre scène et selon des modalités tout à fait différentes, demande à la communauté, on pourrait dire sociale, de se taire, de laisser parler les femmes et de leur faire crédit de la véracité de ce qu'elles apportent. Il y avait donc, entre les débuts de la psychanalyse et, au fond, ce qui s'est passé dans le mouvement MeToo depuis l'événement, disons, qu'a constitué ce mouvement, des similarités que je trouvais très frappantes. Et je m'étonnais, et je m'étonne toujours que les psychanalystes ne se soient pas emparés, disons, de cet événement pour en dire quelque chose. C'est bien sûr pas que les psychanalystes soient tout savants et ni tellement des experts. Les psychanalystes y sortent assez rarement pour rendre compte de leur pratique. Mais je pense que la raison pour laquelle ils restent silencieux, ça n'est pas essentiellement parce qu'ils seraient uniment conservateurs et réactionnaires. Ça, il y en a sûrement, comme dans toutes les communautés, il peut y en avoir. Mais je pense que la raison, elle est plus profonde. Elle a à voir avec les conditions dans lesquelles la psychanalyse, d'une certaine manière, s'est inventée pour Freud par un mouvement de retournement. À la fois entendre ce qu'il en était du sexuel traumatique et des abus sexuels, et en même temps suivre Freud d'une certaine manière par fidélité pour Freud, par rapport à Freud. Il est quand même, je pense, même si c'est relativement insu, pas forcément conscientisé par les analystes, assez difficile, à part Ferenczi, à part la planche, ça a été assez difficile dans l'histoire de l'analyse de donner toute sa, comment dire, toute sa part, toute sa, de faire la place, disons, pour les traumas réels, hein, pour les abus réels et pas seulement les remaniements dits fantasmatiques. Donc le livre, il a aussi vocation à réinterroger l'histoire de la psychanalyse pour se demander ce qui fait que c'est si compliqué, en fait, de prendre en considération la dimension des abus réels.
Alors, oui, moi, ce qui me... Alors, peut-être on aurait pu lire, d'ailleurs, la première page introductive du livre d'Isabelle Alfondari sur l'étonnement qu'a suscité, finalement, l'absence de prise de parole de la psychanalyse. Ce livre est né d'un étonnement dans le sillage du mouvement MeToo, apparu en France en 2017. Les prises de parole sur les ondes ou dans les médias ont été innombrables, réactions d'anonymes mais également de professionnels. Je m'attendais à ce que les psychanalystes prennent la parole. Pourquoi restaient-ils silencieux? Pourquoi ne s'exprimaient-ils, ne s'exprimaient-elles? Nombre de psychanalystes sont des femmes. Que peu sur un sujet, celui des violences sexuelles faites aux femmes, qui ne pouvait pas les laisser indifférents. Pire, pourquoi les quelques murmures qui s'élevaient parfois de leur rang mettaient-ils en cause l'attitude jugée vindicative de femmes qui réclamaient justice pour les violences qu'elles avaient subies et demandaient à être inconditionnellement crues ? Certes, le mouvement MeToo est complexe et protéiforme, ce livre n'a pas l'ambition de le décrypter. Il tire et déduit son objet d'une situation qui n'a pas laissé d'interroger son autrice. Comment un mouvement libérant la parole des femmes sur la question des agressions sexuelles aurait-il pu ne pas toucher les héritières et les héritiers de la tradition freudienne ? Là, le livre est planté, et la question de l'étonnement dont on sait depuis Aristote que c'est la manière de faire de la philosophie, hein, qui s'étonne, et là, ici, d'un comportement. Michele, peut-être.
Non, oui, je voudrais... moi aussi, vous poser une question par rapport au titre de ce livre. Hein. Parce que je trouve aussi... il faut... bon, qu'il y a quelque chose qui m'étonne, en ce sens-là. C'est-à-dire qu'on parle d'un scandale de la séduction. Et je trouve que dans l'analyse que vous faites, aussi bien le mot scandale que le mot séduction sont conçus tout d'abord dans leur sens... étymologique. Alors, il y a tout d'abord dans l'introduction, vous dites scandalon, justement, en grec, qui signifie trébuchement, hein, on peut le dire ainsi, obstacle en ce sens-là. Mais nous arrivons aussi, je vous cite aussi page 99, comme vous venez de nous expliquer l'acte de la séduction par rapport à l'enfant, à la mère, encore une fois, vous utilisez une lecture étymologique du mot seducere, c'est-à-dire porter vers soi, hein, encore une fois. Alors, je voudrais mieux comprendre ces deux profils, Madame Alfondari. Pourquoi le scandale et pourquoi la séduction? Est-ce qu'il y a une sorte de doublure dans votre lecture aussi?
Alors, de fait, ces deux termes sont absolument capitaux et le titre de Scandale de la séduction, c'est un titre délibérément polysémique ou même peut-être équivoque. Parce que, bon, scandalone, ça veut effectivement dire point de butée, trébuchement.
Oui.
Et séduction, c'est un mot très important et aussi polysémique, voire équivoque. Parce que séduction, c'est un mot qui a une racine latine, qui se traduit en français par... la première acception, c'est tirer vers soi,
oui.
Prendre à part.
Mmh.
Or, c'est un mot intéressant parce que le mot qui correspond à ce mot en allemand a en fait une étymologie et une signification légèrement différentes.
Oui.
En allemand, pour dire séduction, comme vous sans doute vous le savez, on dit Verführung.
Verführung.
Or... au fond, et ça c'est aussi intéressant, du coup la psychanalyse entre les langues, elle n'est pas exactement la même. La théorie de la séduction au sens freudien, Verführung, ça n'est pas exactement la théorie de la séduction au sens laplanchien, en français dans le texte. Et Laplanche, le psychanalyste français Jean Laplanche, bien sûr, il parlait parfaitement l'allemand, ça n'est pas la question, mais Verführung, ça veut dire plutôt sortir du sillon.
Okay.
Sortir de ce qui serait, enfin, être sorti du Führung, c'est-à-dire de la route. Seducere, en latin, c'est un mouvement différent qui implique le fait d'être tiré à part, d'être séparé. Ça
on
n'est pas
tous
la
des
même
mouvements,
chose.
Mais les auditeurs ne nous voient pas.
Ouais,
alors,
et, donc,
c'est vrai,
et ça change
imaginer.
Beaucoup,
ah, oui,
ça change oui. beaucoup les termes de la séduction.
Oui.
Je me dis, je ne l'ai pas dit dans le livre, mais je l'ai beaucoup pensé, que les psychanalystes, notamment la tradition laplanchienne, de la séduction, qui revient, qui demande à Freud de faire retour sur sa théorie initiale, que Freud appelait bien sûr en allemand dans le texte Verführung, eh bien, ça n'est pas pour rien qu'ils appartiennent à des langues romanes, en tout cas pour la planche. Parce qu'on ne lit pas exactement, et ça c'est tout l'intérêt au fond que la psychanalyse elle soit dans les langues, on n'entend pas exactement le même mouvement. Quand on entend l'allemand, Verführung, qui est plutôt, qui implique de sortir, de dévier, disons, du sillon, que seducere, séduction, qui implique
porter.
Un mouvement de séparation d'un sujet par rapport à un environnement. Être séduit, en français, littéralement, avec l'étymologie latine, ça veut dire être tiré hors de là où on est. Amener vers l'autre, disons. Amener vers soi. C'est ça, le seducere.
Oui.
Alors que Verführung, c'est sortir, si vous voulez, du sillon, sortir de la route dans laquelle on aurait dû continuer son chemin. Bien sûr, il y a une signification, un sémantème qui est commun. C'est pas complètement différent. Mais ça implique, l'allemand et le français, implique une légère inflexion qui détermine aussi les manières de considérer la théorie de la séduction.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Il y a un petit hiatus ambiancien
oui.
entre les deux. Et en vous lisant aussi, j'ajoute seulement cette petite notation, j'ai immédiatement pensé à propos de cette question du seducere, avant tout, pas du scandale, mais du seducere, à ce que j'ai éprouvé moi-même la première fois en lisant le banquet de Platon. Donc, je trouve que là, dans la prose, dans la philosophie même, votre livre, justement, sur la psychanalyse, sur Freud, sur énormément de choses, mais il y a déjà un effort énorme de séduction dans la philosophie platonique, je trouve.
Ah, mais
après...
Surtout le mythe de la naissance d'Eros, où tu parles de la séduction qui est féminine. Donc, je me demandais si c'était genré ou pas, et c'est quand même le viol que Peña fait de Poros. Donc, voilà. Moi, j'avais pensé à ça.
Exactement. Parce qu'après, il y a toutes les références en ce qui concerne l'Eros et tout ça, mais vraiment, la séduction nous ouvre plusieurs univers. Qu'est-ce que vous pensez
Oui, absolument. Alors bon, c'est un texte absolument, un dialogue absolument capital pour l'histoire de la psychanalyse, le banquet de Platon. Alors pour un psychanalyste d'ailleurs qui va très peu prononcer le mot de séduction, ça non plus je ne le dis pas dans le livre, mais j'y ai pas mal pensé, et qui s'appelle Jacques Lacan, qui dans le séminaire sur le transfert fait une dans le séminaire 8, donc fait une longue analyse du dialogue platonicien, en passant en revue chacun des discours, et notamment en s'interrogeant sur la position de Socrate par rapport à Alcibiade et du mouvement justement, on pourrait dire, anti-séducteur, de refus de séduction, hein, de refus de la demande d'amour qu'Alcibiade adresse à Socrate, hein, alors même que Socrate, nous dit en tout cas Lacan, est particulièrement séduit physiquement par Alcibiade, qui est le plus bel homme de la Grèce. Donc oui, bien sûr que dans le banquet de Platon, la question, alors pour Lacan, ce serait plutôt la question de l'amour ou du transfert ou de l'amour de transfert qui est en jeu. Parce que Socrate, Lacan, en lisant ce texte, dira « Socrate est le premier psychanalyste, celui qui refuse précisément d'être séduit alors même qu'il l'est. » Alors même qu'il est sensible à Alcibiade, comment ne serait-on pas, quand on est Socrate, un homme qui ressemble à un Silène, qui est d'une parfaite laideur, comment ne serait-on pas sensible au plus bel homme de la Grèce, hein, qui vous offre ses, comment dire, qui vous offre tous ses attributs. Socrate est sensible à Alcibiade et pourtant il refuse de se laisser séduire par Alcibiade et lui indique que c'est Agathon et non pas lui qui est l'objet de l'amour d'Alcibiade. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lacan ne se saisit pratiquement jamais et ne commente pratiquement jamais le terme de séduction, chez Freud. Alors, bon, dans le dialogue de Platon, il y a beaucoup de choses qui font écho à la question de l'amour et sans doute de la séduction, et notamment le fait qu'au moment de prendre la parole, Socrate laisse la parole à une femme, à la magicienne, voilà, à Diotime, c'est une femme qui révèle le mythe central. Voilà, c'est une femme qui.
Peut-être rebondir sur une question sur la séduction.
Alors moi, j'ai été admirative des pages de l'ouvrage tout au début. Isabelle Alfandari, où vous faites finalement. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui fait que finalement la séduction devient une butée, hein, qui est finalement un point d'achoppement de la psychanalyse. Et j'aimerais bien que vous reveniez pour nos auditeurs sur, en substance évidemment, mais sur la très belle démonstration que vous faites du rapport de Freud, hein, dans sa première théorie de la séduction. Il y a là des pages absolument magnifiques et j'essaierai de lire au moins un paragraphe sur ce rapport à la séduction dans sa première théorie que Freud va abandonner, et qui est d'ailleurs où vous faites surgir des idées absolument extraordinaires, hein, des intuitions, enfin des explicitations que Freud va abandonner par la suite. Alors, pourquoi ce point de butée de la séduction? Finalement, qu'est-ce qui se passe par rapport à Freud? Ça touche aussi à son auto-analyse, enfin à sa clinique.
Oui, ça touche à son auto-analyse, donc à ce qu'on appelle l'auto-analyse de Freud, c'est ce moment un peu de boîte noire de la psychanalyse auquel on n'a pas accès. Non, Freud dit très peu de choses, de quelques mois au moment où Freud d'ailleurs vient de perdre son père, et où Freud, dans son coin, si j'ose dire, mais aussi dans la correspondance avec Fliess, va évoquer certains souvenirs d'enfance qui lui reviennent, et notamment dans des rêves ou dans des idées incidentes. Et cette auto-analyse va déboucher sur deux choses, on pourrait dire, ou trois. La première, c'est le renoncement à la théorie de la séduction, dont on vient de dire un mot. La deuxième, c'est que Freud renonce sur la base que j'ai expliquée d'une impossibilité, si j'ose dire presque statistique, qu'autant de pères et d'hommes se soient rendus coupables d'actes aussi graves. Et la troisième chose... troisième et quatrième chose qui a lieu dans l'immédiat après coup de l'auto-analyse freudienne, c'est le fait que Freud découvre ce qu'il appelle l'autre scène, Der andere Schauplatz, c'est-à-dire la scène de l'inconscient sur laquelle qui distingue la réalité que Freud appelle matérielle de la réalité, fantasmatique, de la réalité de l'inconscient. Donc il y a deux modèles de réalité, et pour Freud, l'un et l'autre sont absolument à l'œuvre dans la vie psychique. Hein. Il faut bien indiquer cela. Et alors bien sûr, comme la théorie de la séduction laisse une espèce de trou béant, si j'ose dire, dans la doctrine freudienne, Freud va, à partir de sa propre auto-analyse, on pourrait dire généraliser un mouvement de sa propre, ou une réalisation de sa propre auto-analyse, à savoir le complexe d'Édipe. Freud va se remémorer l'amour qui le liait à sa mère et la rivalité et l'admiration qui l'animait par rapport à son père, et va généraliser à partir de sa propre expérience ce qu'il appelle un complexe, qu'il va appeler un complexe universel, en s'appuyant notamment sur l'exemple d'Édipe, bien sûr, et sur la tragédie de Hamlet, qui, selon lui, exemplifie de manière et illustre de manière absolument claire le caractère, disons, d'universalité du mythe édipien et donc de la relation édipienne qui lie l'enfant aux parents du même sexe et aux parents du sexe opposé. Alors, juste pour répondre à votre question, il y a bien un point d'achoppement pour la psychanalyse. Je pense qu'il faut aussi mesurer que... Il y a plusieurs raisons sans doute qui conduisent Freud à renoncer à sa théorie de la séduction. Et ce qui est intéressant, c'est que la théorie de la séduction, quand il y renonce, à la fois, on pourrait dire que c'est un grand dommage pour l'histoire de la psychanalyse et sans doute pour l'histoire de l'humanité, mais c'est aussi, paradoxalement, le moment d'un gain, de l'invention de ce qu'il appelle l'autre scène, c'est-à-dire de la découverte de la possibilité de remaniement inconscient à partir de souvenirs qui ne sont pas forcément des souvenirs d'abus sexuels. Donc c'est un moment très originaire de la psychanalyse qui est très complexe. C'est un moment où il y a d'une certaine manière un passage en force et aussi une découverte. C'est un drôle de moment, si on veut. On ne peut pas juste dire que c'est un moment raté. Il y a un élément de raté et puis un élément d'ouverture. Mais quand vous dites point d'achoppement de la psychanalyse, je crois que l'une des raisons, c'est que il faut imaginer quand même dans quelle atmosphère Freud évolue, dans une Vienne extrêmement bourgeoise du début du XXe siècle, dans un milieu extrêmement conservateur et d'ailleurs très antisémite, dans lequel Freud va évoluer, dans lequel il va avoir bien des difficultés à évoluer, notamment sur un plan universitaire. Freud avance avec la découverte du sexuel traumatique, et il est difficile pour l'inventeur d'une science nouvelle qu'il veut être de soutenir que ce qui est le fondement de cette nouvelle science, ce sera, enfin, ce que met en cause cette nouvelle science comme fondement, c'est la catégorie du père. Dire à tous ces hommes psychiatres, la catégorie du père, c'est celle qu'il faut vouer aux gémonies, c'est le père et le patriarcat, si on veut dire les choses en recourant à un mot moderne, mais qui est en fait déjà un mot très présent, en tout cas une notion extrêmement sensible et déterminante au début de la psychanalyse, mettre en cause toute l'architecture, d'une certaine manière, du social, c'est un peu compliqué. Il me semble que le renoncement freudien, il a aussi à voir avec une grande difficulté dans laquelle est Freud d'avancer.
Et pourtant, il découvre bien une culture du viol, si on reprend les termes actuels.
Absolument.
Il découvre bien que tout se passe dans la famille. Alors, j'ai adoré les pages aussi sur les servantes, hein, le bas-peuple qui éduque les enfants de la bourgeoisie et qui aussi l'éduque à une forme de sexualité, enfin, entre viol, séduction.
On le sait depuis longtemps. Voilà. Freud, venant à Paris, a été très intéressé par les... un certain nombre de textes de Restif de la Bretonne qui expliquent le caractère d'immoralité extrême des domestiques femmes et hommes qui éduquent. Bon, ça, c'est toute l'histoire, disons, du libertinage français. Il y a ça aussi.
Mais c'est chez Sade, hein. C'est marrant comme il découvre, et d'ailleurs à partir aussi de ses propres souvenirs, hein, vis-à-vis d'une bonne d'enfant qu'il avait
qu'il a beaucoup aimé.
Qu'il a beaucoup aimé et qui
lui faisait prendre des vins dans l'eau rougeâtre dans laquelle sans doute se répandaient ses propres menstrues. Donc il a des souvenirs un peu traumatiques, on pourrait dire, d'enfant, mais il a beaucoup aimé cette bonne. Il n'y en a pas du tout voulu.
Tout à fait. Donc c'est marrant que finalement quelque chose qui aujourd'hui serait parlant soit abandonné. Bon, vous avez très bien expliqué aussi dans quel contexte, mais aussi, est-ce que finalement, on sait que Freud se voulait un scientifique, la psychanalyse a une démarche de science et se voulait une science. Est-ce que finalement la séduction, le problème, c'est aussi son indémontrabilité ou en tout cas, ça...
C'est pas sûr que ce soit son problème principal, parce que Freud pouvait et a pu très rapidement établir une liaison de causalité, un lien de causalité entre des abus sexuels perpétrés sur des sujets notamment féminins et la survenue de troubles psychiques qu'on disait hystériques. L'étiologie, la première étiologie de l'hystérie, la première cause de l'hystérie que Freud découvre, ce sont ces abus. Et quand, par le travail de la parole, le sujet peut se remémorer, parce que Freud appelait l'abréaction, peut se remémorer ses scènes sexuelles, brutalement, le sujet féminin est capable à nouveau de voir, de pouvoir faire usage de ses yeux, de son appareil locomoteur. Donc là, il y avait quand même une dimension, en tout cas, de grande probabilité, si ce n'est d'établissement d'un lien de causalité. Je ne suis pas sûre que la séduction, elle ait été improuvable. je pense plutôt que la séduction, elle posait un grand problème. Et pour répondre à la question précédente, c'est l'achoppement, c'est le point d'achoppement pour la psychanalyse, mais c'est le point d'achoppement pour le social.
Oui, oui. Tout à fait.
C'est-à-dire, comment est-ce que la culture, comme l'appelle Freud, peut supporter que le père soit en question de manière aussi... Enfin, le père, l'architecture, disons, sociale reposant sur le pilier qu'est l'ordre du père, disons, le père et les frères, bien sûr, comment mettre en question, donc le point de butée, c'est ce qu'on est capable, y compris aujourd'hui, de supporter de la mise en cause
de la famille aussi.
De la famille et de son organisation, disons, traditionnelle. Mmh. Parce que ce que je voudrais dire, c'est qu'en 1897, Freud est assez ambigu, on pourrait dire. En 1897, il renonce tout à trac à sa théorie de la séduction, mais en 1908, Freud écrit un texte très intéressant dont je parle, dont je reprends les termes, dans lequel il dénonce la nuit de noces comme étant une nuit de violence sexuelle et de viol pour la plupart des femmes, causant de graves soucis, disons, psychiques pour de très nombreuses femmes qui n'ont pas du tout été préparées à ce que va être la vie érotique, à la vie, et pour de nombreux jeunes hommes qui n'ont pas du tout été préparés à ce qu'une jeune femme vierge n'a aucune connaissance de ce qui peut se passer dans une nuit de noces. Donc, le même Freud qui renonce à la théorie de la séduction ne dit pas du tout qu'il n'y a pas de viol. Il dit que ça n'est pas que ça ne peut pas être la cause principale responsable de l'hystérie. Et par ailleurs, 8 ou 10 ans plus tard, il soutient que de nombreuses affections psychiques, notamment chez les femmes, résultent, on pourrait dire, de la vie conjugale et notamment de la vie sexuelle avec de jeunes maris ou de moins jeunes maris qui se livrent sur elles, sur leur corps, à des activités sexuelles qui relèvent de viols non seulement physiques, mais psychiques. Parce que ce qu'il faut dire aussi, pour faire entendre toute la complexité de cette affaire, c'est que pour Freud, depuis le début, la vie, le pire des crimes, d'une certaine manière, c'est le crime sexuel. Le crime sexuel, non seulement il entame le corps du sujet, mais il est aussi toujours une dimension de viol psychique. Donc Freud ne minore pas la dimension du crime sexuel, simplement il ne la reconnaît pas comme la plus courante pour expliquer les affections dont souffrent les femmes dites hystériques.
Ouais, et vous dites qu'il tombe d'accord avec Foucault, avec 70 ans d'écart, sur l'idée d'une société de la perversion. Hein, donc, c'est institué avec notamment l'institution du mariage. Quoi. Alors, je crois qu'on va devoir notre petite pause musicale.
Avec Alain Bashung, c'est ça ? Vertige de l'amour, c'est ça ?
Et on y va.
Et ben voilà.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquine. Sup m'a vu venir, Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués, puis y a un truc qui fait masse. On peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. J'veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Tu chopes des sphères à Saigon. J'm'écris des cartes postales du front. T'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton.
Voilà, chers auditeurs d'Aligre FM, vous écoutez 4 sur 93.1 Philosophie au présent et nous sommes en compagnie de la philosophe, psychanalyste et professeure de littérature Isabelle Alfandari pour parler de son livre « Le scandale de la séduction d'Oedipe à MeToo ». Et nous venons d'écouter « Vertige de l'amour » d'Alain Bashung, enfant adoptif de Strasbourg, et une chanson complètement onirique, énigmatique, autant sur le fantasme que sur les représentations des figures parentales. Il y a Dieu en kilt, la mère sub qui surveille, enfin je ne sais pas si ça vous parle Isabelle. Et peut-être un petit mot sur cette chanson donc, des années 80, la séduction est-elle de l'ordre du vertige, hein. On a dit tout à l'heure que le scandale c'était le fait de trébucher, donc c'est le risque de tomber, comme le vertige, c'est
c'est un très bon choix. D'abord, c'est une très bonne chanson, d'un très bon chanteur. Mais bien sûr que la séduction est du côté du vertige. Elle est du côté du vertige. C'est d'ailleurs ce que, par exemple, quelqu'un comme Baudrillard, comme Jean Baudrillard dit dans son essai tout à fait crucial de la séduction. Elle est du côté du vertige, elle est du côté d'une certaine pervertibilité des signes, indécidabilité des signes. Y compris pour le sujet lui-même. Entre séduit et séducteur, les rôles peuvent s'inverser. Je ne parle pas, bien sûr, des séductions, disons, qui débouchent sur des abus réels. Mais il existe d'autres régimes de la séduction, moins tragiques. Et même dans ces régimes-là, au fond, même dans la séduction dite heureuse, il y a, c'est ce que j'essaye de dire, une asymétrie dans les positions entre le séduit et le séducteur. Et on pourrait dire qu'une séduction heureuse, elle implique toujours un vertige.
Justement, moi, je voulais reprendre ce que vous dites, page 29. Freud lui-même reprend un vieil argument métaphysique, à savoir que la séduction est mauvaise car elle prive de son jugement. Et j'avais envie de faire une petite référence à la philosophe Françoise Dastour qui, dans une conférence du 22 mai 2001, intitulée « Amour et séduction, une approche phénoménologique », distingue le séducteur et le séduisant en ces termes. Ne faudrait-il pas ici, si nous devions entreprendre une sorte de réhabilitation de la séduction, distinguer entre deux types de comportements, celui du séducteur, toujours vil, qui poursuit son propre plaisir aux dépens d'autrui, et celui du séduisant, celui ou de celle qui nous attire par une grâce innée, un charme naturel et ignorant de soi. Alors, à partir de ces deux types de séduction, soit par ruse, soit par innocence, est-ce qu'on peut distinguer justement, c'est ce que vous commenciez à dire, une mauvaise d'une bonne séduction, et vous consacrez quand même votre dernier chapitre à la vie amoureuse, donc on peut imaginer à une séduction heureuse, j'espère, enfin voilà. Et alors, est-ce qu'on peut les distinguer, la bonne et la mauvaise, de manière radicale? Est-ce que c'est une différence de nature ou est-ce que c'est une différence de degré? Et si c'est une différence de degré, est-ce que ce ne serait pas justement dans ces nuances-là que se trouve toute la difficulté à saisir ce qu'est le consentement? Voilà, moi par exemple, je pensais à la zone grise qu'on trouve, Karine Thuil parle dans Les choses humaines, pour l'illustrer.
C'est plusieurs questions dans ce que vous me demandez, mais peut-être pour dire que, d'abord, la question de la séduction, de fait, comme j'essaye de le dire dans le livre, c'est peut-être le paradigme métaphysique le plus ancien, parce que finalement, le sophiste, c'est le séducteur, le vil séducteur. alors que le philosophe, lui, qui ne cherche pas à séduire, qui n'est d'ailleurs pas du tout séduisant, on sait que Socrate est d'une laideur légendaire, lui ne donne pas des bonbons, sont des remèdes, des potions aigres qu'il donne aux jeunes Athéniens. Donc, simplement distinguer la bonne et la mauvaise séduction, ça me fait penser un peu à ce que dit Philippe Lacoulabart lorsqu'il parle de la bonne et de la mauvaise mimésis chez Platon. Ce serait une manière de redoubler un geste très métaphysique au fond, même si on peut être tenté de le faire. Je suis pas sûre qu'il y ait une bonne et une mauvaise séduction. En tout cas, l'argument du livre, c'est qu'avec la psychanalyse, on découvre que entre séduit et séducteur, il y a forcément une relation d'asymétrie. Donc qui est du côté d'un certain vertige, il faut supporter cela, et peut-être même dans ce qu'on pourrait appeler les séductions non violemment traumatiques, il y a toujours la possibilité, donc y compris quand on n'est pas victime d'un abus sexuel, c'est ça le scandale, que la séduction soit trop effractante pour le sujet. C'est comme ça, et ça je pense qu'avec MeToo on s'en est aperçu, que certaines femmes ont pu par exemple se plaindre d'avoir y compris donné leur consentement et l'avoir ensuite repris. Parce que finalement, ce qui s'était joué pour elle s'est avéré beaucoup trop effractant. C'est pour ça que la catégorie du consentement, je m'en méfierais. Mmh. Elle a l'air d'être une catégorie, comment dire, sur laquelle on peut s'entendre. Elle a l'air d'être une catégorie raisonnable pour le droit. Et en même temps, elle pose de grands problèmes.
Y compris en droit, d'ailleurs.
Elle est en discussion. Alors, elle est en discussion, mais je pense que, comme j'essaye de le dire dans le livre, si la psychanalyse a un tout petit, comment dire, à son tout petit grain de sable à apporter dans le débat, c'est de dire que comme la séduction relève de l'inconscient, elle relève de la répétition, disons, de séduction ancienne, le consentement implique une logique contractuelle, une logique de pleine conscience, hein, de conscience éclairée et entière. Et on ne peut pas dire que dans l'événement, disons, érotique ou dans la séduction amoureuse, le sujet soit uniquement un sujet en pleine possession de, toutes ses, de tous ses moyens, on pourrait dire. Il y a une autre, exactement, il y a une autre scène qui peut produire des effets de séduction catastrophiques pour un sujet alors même... Hein, et ça, la psychanalyse a quelque chose, je pense, à en dire, alors même qu'il n'y a pas de réalité d'un abus. Il peut y avoir des scènes d'abus absolument avérées, mais même dans des cas où un sujet a eu l'air de consentir, il peut, dans l'après-coup d'une relation amoureuse, être complètement débordé et avoir eu le sentiment d'avoir été floué. Et on pourrait se dire, bon, ben, au titre de la théorie du consentement, ben, le sujet a consenti, il a consenti, oui, c'est oui. Ben, en fait, on sait avec la psychanalyse que oui, en fait, ça peut vouloir dire non.
Oui, il y a toute une étude sur le langage et ça, c'est, je trouvais ça passionnant, l'étude de Ferenczi sur la confusion des langues. Ça, c'est pour l'abus des enfants, sur la question de l'amour, que l'enfant demande un amour qui serait tendre et sécurisant. Et l'amour dans l'esprit de l'adulte qui abuse, c'est un amour passionnel, passionné, qui n'est pas le même. Alors, je ne sais pas si c'est encore entre adultes aussi une histoire de confusion des langues aussi.
Mais bien sûr, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se joue toujours dans une situation de séduction, y compris, on pourrait dire, heureuse, simplement dans une séduction heureuse, les rôles ont tendance un peu à s'inverser. Mmh. On est tour à tour séduit et séducteur, si vous voulez. Mmh. Dans les situations catastrophiques d'abus avérés, bah, y a un séducteur manipulateur et un séduit qui est objet de cette séduction. Bon. Mmh. Mais même dans les situations, disons, qu'on pourrait dire heureuses ou non violentes, ne relevant pas d'une séduction violente, la relation de séduction, c'est ce que comprend la psychanalyse, en tout cas l'histoire de la psychanalyse, elle met nécessairement un séducteur aux prises avec un séduit. Et la position dans laquelle on se trouve, même heureusement séduit, c'est une position qui nous ramène à un état d'enfance. Donc l'enfant, c'est pas seulement, c'est toujours l'enfant dans l'adulte qui est en jeu dans la situation de séduction. Et c'est pour ça que ce que dit Laplanche est tout à fait important. Parce que pour Laplanche, au fond, la séduction, elle commence très très tôt et elle est une espèce d'énigme, hein, d'avoir été affrontée, confrontée à une certaine langue, à même préverbale, à certains gestes, à certains mouvements, d'avoir vu ses parents s'embrasser alors qu'on était petit, sans pouvoir traduire cela. Et c'est ça la situation d'être séduit. Mais c'est d'être un peu effracté par l'autre sans très bien comprendre ce qui nous arrive, y compris dans les cas où on n'est pas séduit de manière violente et tombant sous le coup de la loi.
Alors, Michele.
Oui, j'ai rien, seulement deux petites choses. J'ai fait l'avocat du diable. Non, ce n'est pas l'avocat du diable. Mais alors, il y a un point, je voudrais savoir votre avis. Ce que le droit nous enseigne pas mal de fois, que le consentement est toujours révocable en ce sens-là. Alors, au moins au début. Après je sais que vous mentionnez aussi la théorie du consentement de Catherine MacKinnon et je partage avec vous
son opposition à la...
Exactement, en ce sens-là. Est-ce qu'il y a dans cette question du consentement qui est quelque chose toujours un peu de révocable, disons à n'importe quel moment, un point qu'on peut lui reconnaître, je ne sais pas.
Oui, alors le consentement, on se dit que c'est je ne sais pas comment dire, c'est la condition nécessaire. Sans consentement, il n'est pas possible, sans doute, d'avoir une relation sexuelle avec l'autre. Si l'autre n'y consent pas, ça n'est pas possible. Mais je ne pense pas que ce soit suffisant, le consentement. Je ne révoque pas, je ne récuse pas la valeur du consentement en tant que tel. Je veux dire, il ne s'agit pas de dire que le consentement n'a pas de sens. Bien sûr, c'est le minimum exigible.
Oui,
donc, mais oui. il n'est pas suffisant pour la raison que j'ai essayé d'expliquer. Mmh. Et puis surtout, franchement, le consentement révocable, ça veut dire quoi? Qu'on va vous donner un petit boîtier pour que vous consentiez jusqu'au bout de l'acte sexuel? Comment on va pouvoir établir... Non, mais je veux dire, il me semble qu'une théorie contractuelle, en fait, elle ne rend pas compte de ce qui est en jeu, des déterminations inconscientes en jeu dans une relation sexuelle. C'est pour ça que c'est nécessaire. Disons, si on n'a pas consenti, il est évident que sans doute on peut établir la violation sur un sujet. Mais ça n'est sans doute pas suffisant, parce qu'on a pu parfois consentir pour des raisons dont on ignorait lesquelles elles étaient et qui peuvent nous mettre en situation d'être complètement effractés. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que oui, parce que c'est la catégorie du consentement qui se manifeste par le oui, n'est pas absolument irrévocable. Vous comprenez? Notamment c'est du point de vue de la psychanalyse. Oui. Un oui, en fait, peut masquer un non qui n'a pas pu s'exprimer ou un non qui n'a pas pu être présentifié, qui n'a pas pu être conscientisé par un sujet.
Donc, on ne doit pas tomber dans une sorte de formalisme du consentement
Il est très vite en échec, le formalisme du consentement. Oui. Et il n'est pas sûr qu'il soit tellement utile aux femmes pour défendre leur position. Mmh. C'est ça que je veux dire.
Tout à fait. Eh bien, mes amis, il est temps d'annoncer la flânosophie de Michele Saporiti avec grand plaisir et le petit jingle que tu avais choisi.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Aligre FM, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite rubrique de philosophie au présent qui s'appelle Flânosophie, la quasi-science du divertissement intellectuel qui fait rencontrer le philosophe, le flâneur, le poète, mais bien sûr la philosophe, la flâneuse, la poète et beaucoup d'autres créatures qui sont en vous. Et je me permets aujourd'hui de dédier cette petite flânosophie à Isabelle Alfandari. Aujourd'hui, chers philosophes, on poursuit notre voyage dans le temps en réfléchissant sur une dimension qui personnellement me manque beaucoup, l'oisiveté. Et tout d'abord, je vous invite à répondre à cette question, mais soyez sincères. Quelle est la dernière fois que vous avez été intégralement oisif, sans ordi ni portable, sans tablette, sans montre, sans wifi? Quelle est la dernière fois que vous avez été dans un contact pur, direct, franc, avec le temps qui passe et les nuits qui montent? En italien, on dit que l'ozio è il padre dei vizi. L'oisiveté est le père des vices, car l'ozio, oisiveté, est masculin en italien. Et aujourd'hui, on va démontrer exactement le contraire. Alors, voici un petit éloge flânosophique du temps de l'oisiveté, qui est en revanche la mère des vertus. Le philosophe le sait très bien, le flâneur aussi, le temps oisif n'est pas du temps perdu, mais du temps gagné pour réfléchir peut-être, mais surtout pour laisser nos pensées bourgeonner parmi les rochers des devoirs et des tâches. En effet, il y a une contradiction assez stupide à la base de cette attitude. L'opposition entre faire et ne pas faire, produire et ne pas produire, mais faire, c'est quoi? Un philosophe anglo-saxon du XXe siècle, très important, John Austin, écrivait à propos du langage que dire quelque chose, c'est déjà faire quelque chose. Mais essayons d'aller plus loin. Ne pas faire quelque chose, c'est déjà faire beaucoup. Surtout aujourd'hui, rien faire, c'est accomplir un effort énorme. Résister à l'injonction du temps productif, résister à la recherche qui est toujours une forme de connexion avec l'objet recherché, du temps gagné et qui fait gagner. Et si les anciens nous avaient appris « difficilis in ocio quies » ou à la française « difficilis in ocio quies », c'est difficile le calme dans l'oisiveté, voici un petit vademecum de conseils pour lancer un mouvement de militantisme flânosophique, les disciples du temps plus que perdu. Première règle, regardez. Tout simplement, regardez les nuages. Quand il n'y a pas de nuages, regardez ce qui possède la substance du nuage. La légèreté, la précarité, la capacité de bouger, de nous transporter. Deuxième règle, observez notre peau. Sa complexité, son irrégularité, sa capacité de nous protéger, de s'abîmer, mais de se trouver en soi la force pour se réparer. On peut apprendre beaucoup de notre peau. Troisième règle, écoutez. Écoutez les bruits de nos pensées comme s'ils étaient la langue de barbares pour les Grecs, étranges, étrangères et gênants. On doit écouter sans rien entendre. Quatrième règle, humez. mais l'air et les séquelles insufflées deviennent un souvenir et le souvenir se retransforme en aigre. Cinquième règle, la plus importante, n'est pas respecter toutes les règles précédentes que je viens de suggérer. La dernière règle est vraiment la règle la plus importante, que le temps de l'oisiveté ne se transforme pour que le temps de l'oisiveté ne se transforme pas dans un temps de mindfulness, mais de méditation, comme on dit aujourd'hui, qui font désormais l'objet de l'énième injonction à faire et aussi à ne pas faire. Pour que l'oisiveté puisse devenir la mère de tes vertus, on doit tout d'abord oublier ce qui est une vertu, ce qui est un vice. Sommes-nous capables d'enfreindre les règles, la prévisibilité qu'elles portent avec eux? Sommes-nous capables de vivre l'anarchie du temps plus que perdu? À vous de vouloir répondre, cher philosophe, après cet acte d'anarchie philosophique qui est une philosophie. Merci.
Merci beaucoup, Michele, pour cette flânosophie. Alors, on était en train de discuter hors antenne. On se disait, on n'a pas assez lu d'extraits de l'ouvrage d'Isabelle Alfandari. Alors, on le fera après le petit questionnaire parationnel. Hein, c'est ce qu'on s'était dit ou maintenant,
non, Stéphanie Ronchevsky? Non, non, c'était oui. À la fin. Je voulais faire une petite note.
Voilà, comme ça, on terminera.
Et puis, on terminera alors, quand on voilà. Fera la synthèse. Ouais.
Alors, Isabelle Alfandari, des petites questions. C'est interdit de réfléchir. Je sais que pour vous, c'est hyper dur de ne pas réfléchir. Comme tout philosophe, tout psychanalyste, je suppose aussi. Quel est votre rêve d'enfant ?
De m'amuser.
Quelle couleur pourriez-vous associer à votre parcours intellectuel ?
Le rouge.
Est-ce qu'il y a des choses qui restent mystérieuses pour vous ?
La plupart des choses restent mystérieuses pour moi.
Oui, c'est la démarche psychanalytique et philosophique par excellence, hein, normalement. avez-vous des talents cachés ?
Je l'espère, mais je ne les ai pas encore trouvés.
Alors, si vous étiez ministre de la Culture, quelle première décision aimeriez-vous prendre ?
De rendre les spectacles et les concerts gratuits.
Oui. Quel autre métier auriez-vous voulu faire? Vous êtes enseignante à l'université, psychanalyste, écrivaine.
Être musicienne.
Être musicienne. Quel instrument?
Le piano.
Piano. Une dernière question, on a le temps, Stéphanie?
Oui, il me semble que là, ça va.
Quel personnage auriez-vous aimé rencontrer pour lui dire quoi?
J'aurais aimé rencontrer Mozart, juste pour flâner avec lui dans les rues de Salzbourg, ou de Vienne ou de Paris.
Super, merci beaucoup. Stéphanie, je te laisse la parole.
Bah, un dernier mot pour conclure donc sur votre livre « Le scandale de la séduction » d'Oedipe à MeToo. Je voudrais aussi dire à nos auditeurs que c'est un livre qui va très très loin dans l'analyse et qui en même temps est accessible et vous donnez toutes les clés parce qu'il y a beaucoup d'extraits aussi, vous nous donnez vos sources. Et ça, c'est un vrai bonheur, c'est vraiment très très agréable de se retrouver avec les sources, avec les références. Voilà. Et alors, pour nos auditeurs aussi, je voudrais parler de la couverture. Donc, c'est une image des amants de Magritte et donc on voit une femme assise avec juste la tête d'un homme qui l'embrasse et vous parlez de ce tableau page 200, mais à ma grande surprise, c'est pas le même. C'est aussi les amants de Magritte, mais là, vous parlez des amants de Magritte qui sont voilés. Hein. Le tableau de Magritte, les amants, 1928, illustre de la manière la plus magistrale qui soit cette relation d'inconnu, qu'est la relation amoureuse qui inaugure toute séduction adulte. On y voit un couple dont chacun des visages est couvert d'un linge opaque, s'embrasser fougueusement. Il y a plusieurs manières d'interpréter cette image. L'inconnu à l'œuvre peut être l'inconnu qu'à l'avenir réserve aux amants aussi bien que l'inconnu de leur passé, qu'ils se tendent à l'autre sous la forme d'un visage voilé. Alors pourquoi il n'y a pas le tableau dont vous parlez sous la couverture? Est-ce que ça veut dire que ce livre lève le voile puisqu'il n'y a plus de voile sur la couverture?
On pourrait dire ça. Je crois qu'il y a plusieurs tableaux chez Magritte, il y a souvent des séries, il y a plusieurs tableaux des amants, il y a plusieurs tableaux dans lesquels on voit des amants complètement voilés. Le tableau principal, je crois, était relativement cher, la reproduction du tableau principal était trop chère. Et celle-là, qui était un peu différente, mais qui implique un décalage intéressant, a finalement été retenue. Voilà, c'est la seule raison. Mais il me semble que fondamentalement, même dans cette image, on comprend bien qu'il y a là une asymétrie, un décalage entre le séducteur et le séduit. Et
C'était l'idée.
Voilà. Eh bien, on va remercier Isabelle Alfandari d'être venue aujourd'hui, d'avoir pris de son temps pour nous parler de son ouvrage « Le scandale de la séduction d'Oedipe à MeToo » qui est paru au PUF en 2024, n'est-ce pas ? Merci beaucoup Isabelle Alfandari d'être venue. Voilà, c'était un plaisir. Et on va se retrouver alors bientôt avec Laurence Mouillet hein, pour son roman La disparue du cinéma. Voilà.
Oui, c'est, hein. Peut-être que je peux en dire un mot. C'est un roman qui revient sur une affaire qui a fait beaucoup de bruit il y a une trentaine d'années à Strasbourg, l'affaire Carole Prin au cinéma Star. Hein. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme hein, qui travaillait dans ce cinéma. Donc, une histoire, à l'origine, une histoire vraie d'une jeune femme, d'une femme enceinte qui disparaît le jour où elle doit accoucher et qui travaillait dans ce cinéma. Et donc, une autre jeune fille qui y travaillait. Fait état de ce qui se passe en elle, voilà, à
très
ce
bien.
Moment-là.
Eh bien, ça sera l'occasion, voilà, d'écouter
de parler littérature.
Et de parler littérature. Alors, on tient d'abord à remercier Armand, qui était là aujourd'hui, Armand Gury à la technique. Merci beaucoup, nous ne sommes pas grand-chose sans les techniciens. Je rappelle à nos auditeurs que toutes nos émissions, notamment grâce à Stéphanie Ronchevski, sont audibles, écoutables, notamment sur Spotify, entre autres. Et nous faisons des podcasts aussi d'abord écoutables sur Aligre FM. Bref, vous nous trouvez partout. Si vous voulez réécouter Isabelle Alfandari aujourd'hui, eh bien voilà, vous le pouvez, ce sera magnifique. N'oubliez pas de faire des dons, chers auditeurs, chères auditrices. Vous savez, c'est une radio qui ne vit que des dons de ses auditeurs. Voilà, nous sommes libres, ben, ça implique aussi qu'on a besoin de vous. Alors n'hésitez pas, vous trouverez tout sur nos sites internet. Hein, voilà, pour cette radio magnifique www.aligrefm.org, il est 55, il faut que je m'arrête. Remercions encore Isabelle Alfandari d'être venue aujourd'hui.
Merci Isabelle.
Au revoir.
Et achetez son livre, messieurs, dames.
Au revoir.
Bonne journée à vous, merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.